Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes.
Loco Pedros, Pedros Loco, c'est fabuleux!
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Nos bars, allez, presse allez. Océan.
Tu danses à chaque fois. Hein.
David Filippo, West France, un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat West.
Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard.
Salut.
Certains journalistes sont attirés par l'odeur du sang, lui c'est par la jeunesse. Et on parle de foot, bien évidemment. La Youth League à l'honneur cette semaine, les performances de Zézé également, on était obligés d'accueillir à nouveau Jean-Marcel. Ça va Jean-Marcel, t'es content d'être là?
C'est dur pour un réveil je trouve.
C'est vrai qu'on est un petit peu tôt. Salut Pierre-Arnaud Barre.
Salut Simon, bonjour tout le monde.
Bon, le mec a changé d'idole. Hein. Avant c'était Jean-Marcel à sa gauche, mais cette idylle est terminée. Désormais c'est Loïc Folio, d'où cette boucle d'oreille qui est apparue sur le côté gauche de Pab.
J'ai vu ça.
Ouais, c'est un bel hommage.
Bah, c'est la crise de la quarantaine.
Ah ouais, la crise. Il se cherche physiquement.
Ouais, puis tu devais couper les cheveux aussi.
Puis attends le tatouage.
Salut David Filippo, pas de boucle d'oreille en vue, non, a priori.
Ça
je te sais faire une météo, un petit point peut-être sur la couleur du ciel en Vendée aujourd'hui. C'est couvert comme au-dessus du FC Nantes ou pas?
C'est gris, ouais.
Comme au-dessus du FC Nantes.
Oui, c'est un peu ça, ouais.
Pas la tempête encore.
Non, mais ça va pas tarder, je pense. On en parlera tout à l'heure.
Le fan des Canaries qui nous écoute.
Clash. Ça, c'est pour Jean-Marcel avec Clash.
Non. Mais non.
Boys Don't Cry.
Dans les Cures.
Oh là là. Ah ouais, effectivement, c'est le matin, là.
Ouais.
C'était la sonnerie, je l'ai peut-être déjà raconté, du lycée Appert.
Ouais, tu l'as déjà raconté, ouais. Je me rappelle
parce que j'adore cette chanson. Ouais.
Donc, c'était la sonnerie du lycée.
Ouais, grave. Salut à tous les lycéens de Nicolas Appert à Orvault, par lequel je suis passé. Ouais, bah oui, on s'amusait bien.
D'accord.
C'était le signe de la libération, cette chanson-là. On n'en est pas à pleurer autour du FC Nantes, mais ça commence un peu à piquer quand même, cette ribambelle de défaites. C'est au menu de ce 25e épisode, saison 5 de Sans Contrôle. La défaite des Canaries face à Lens est la 5e sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. 30 bonnes minutes, puis pas grand-chose. Est-ce inquiétant ou pas? Offensivement notamment, 3 buts en 7 matchs seulement. On évoquera un homme dans le match, Moussa Sissoko, qui a particulièrement marqué les esprits. Enfin, Gourvennec est-il sous pression avant Toulouse-Nantes? On fait le bilan du Mercato également aujourd'hui, avec des mouvements dans tous les sens cet hiver. Un des plus actifs de l'ère Kita à cette période, 4 arrivées et 7 départs, puisqu'il y en a un 7e ces dernières heures. Que pensez-vous des choix opérés, des profils de joueurs qui ont rejoint Nantes? Et la cellule de recrutement est-elle vraiment efficace? Enfin, le FCN opère une cure de jeunesse avec Gourvennec qui lance ses jeunes en Ligue 1 à l'image d'un convaincant Nathan Zézé. Quels autres jeunes ont une carte à jouer sur la fin de saison? Comment ça se passe avec le centre de formation? Et puis on va parler Youth League évidemment, avec un ticket pour les 8e de finale face à Séville mercredi. Allez messieurs, on se lance, non sans écouter notre maître à tous.
Eh hey, oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non?
Hey, oh, let's go.
Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Je suis déçu, je pensais que tu allais me passer la parole en fait.
Sur quel sujet?
Notre maître à tous.
Notre maître à tous.
Oh, c'est vrai que t'es du même calibre que Valdemar dans ton registre. Cher Jean-Marcel, on débriefe la défaite face à Lens, le manque de réussite, l'incapacité des Canaries à marquer et les conséquences des défaites qui s'enchaînent évidemment.
Quelque chose vient.
Oh, Cabrel.
Ah, Cabrel.
Quelque chose vient.
Encore.
Encore et encore.
Une petite pensée pour ma maman qui adore Cabrel.
Seul au fond de l'espace, y a personne devant. Personne.
Team karaoké.
C'est vrai que parfois on a l'impression qu'il n'y a personne devant pour marquer au FC Nantes et qu'on vit les mêmes choses encore et encore. Cette défaite face à Lens, je le disais, la 5e sur les 6 dernières rencontres. Dans son scénario, d'abord, on va s'intéresser, tiens, David, à son scénario, à cette défaite-là. Est-ce qu'elle est inquiétante pour toi dans ce qui s'est passé sur le terrain?
La deuxième période, oui. Préoccupante. Très préoccupante. Franchement. On voit cette équipe qui est menée en début de seconde période. On s'attend à une rébellion, à réaction, à... et il s'est rien passé. Mais rien du tout. Et vraiment, j'ai trouvé que cette deuxième période était très, très, très préoccupante.
Pour, c'est pour la première fois qu'on a un tel sentiment d'impuissance sur la capacité nantaise à marquer. Il n'y a pas eu de, sur les dernières minutes de siège du but lensois, par exemple, Pab.
Moi, je ne suis pas, enfin. Oui, c'est préoccupant parce que de toute façon, la situation de Nantes est préoccupante, que ce soit au classement, au niveau de la série de résultats. Après, c'est pas contre Lens, je trouve, que tu fais ton match le plus inquiétant, parce que Lens, pour moi, était fort, vraiment plus fort. Plus
sur le premier quart d'heure du match, il y avait une vraie domination lensoise. Mais ensuite, on a vu Nantes rééquilibrer les choses quand même en première mi-temps.
Bah, tu l'as dit dans le sommaire, tu as eu 25-30 bonnes minutes où effectivement, là, tu dois faire la différence. Moi, c'est ça, là, à la rigueur, là où je suis le plus inquiet.
Tu as des occasions à ce moment-là.
Quand tu domines, quand tu as des occasions, tu les mets pas. La deuxième mi-temps, en fait, on le sait malheureusement avec cette équipe-là, à partir du moment où tu prends le but... Enfin, peut-être que je suis pessimiste, mais à partir du moment où tu prends le but, je me suis dit c'est terminé.
Non, parce que parfois t'es mené au score et tu vois une équipe qui se crée des occasions, alors, et qui évidemment n'a pas d'efficacité parce qu'ils en ont pas cette saison, ils n'y arrivent pas.
Mais tu vois une équipe contre Laval, ouais.
Et mais en plus j'ai senti un coup de pompe moi physique. Ouais. En fait j'ai trouvé qu'ils avaient pas, ils avaient plus d'essence quoi.
Parce que Lens était vraiment plus fort, ils les ont bloqués, en contre-attaque ils visaient mal. Techniquement c'est bon.
Je pense que c'était pas physique moi David, il y avait simplement une infériorité technique. Tactique nantaise, il savait pas faire face à ce bloc lensois. À ton avis, Jean-Marcel ?
Bah, préoccupante. Au regard de l'adversaire, je dirais non. Et au regard du contenu proposé, je pense que si cette défaite-là intervient pas dans la phase dans laquelle se trouve le FC Nantes, elle est pas préoccupante. Le problème, c'est que aujourd'hui, le FC Nantes est en situation d'urgence. Et il est en crise de résultats, en manque de points.
Tu dis tellement mieux ce que j'ai déjà dit.
Bah, si tu pouvais pas l'interrompre, du coup.
Non mais je suis admiratif.
Ah oui, t'essayes de le déstabiliser. Continue, ouais, Jean-Marcel. Allez.
Et donc effectivement, elle est très préjudiciable parce qu'elle ne permet pas en fait de relancer une dynamique et de bonifier le nul qui avait été obtenu à Reims.
Le nul à Reims, tiens, petite parenthèse quand même. On avait dit bon nul, enfin certains, c'était. Je suis désolé, on a vu Reims perdre face à Toulouse et on a vu que cette équipe rémoise en ce moment, avec tous ses absences, ses internationaux partis, c'était peut-être pas si terrible que ça, hein, on en a parlé.
C'était un tout petit Reims, t'avais énormément d'absents et. Le match était pas très bon. Hein,
enfin, c'est le petit Reims qui a été gagné avant à Monaco quand même, donc.
Écoutons Pedro Chirivella, Jean-Marcel, après cette rencontre face à Lens.
En ce moment, c'est dur. Quand t'as autant d'occasions et que t'arrives pas à marquer, c'est dur. Mentalement, je pense qu'on fait les efforts, mais on sait dès ces mi-temps, on n'a pas fait les efforts intelligemment. Je pense qu'on a laissé trop d'espace à cette équipe de Lens. Comme je dis, on était beaucoup moins organisés. Et quand t'es moins organisé, c'est plus difficile de jouer au ballon aussi. Et c'est ça qui a passé en deuxième. Je pense qu'à la fin, on a des situations pour mieux faire sur des centres, sur des frappes. Faut pas lâcher, il faut continuer à faire les efforts qu'on fait parce qu'on fait vraiment des efforts. Toutes les semaines, tous les matchs.
On n'a pas fait les efforts intelligemment, nous dit Pedro Chirivella. Est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que c'est simplement une question d'effort ensemble ? Moi, j'ai trouvé que ça manquait de talent aussi. Hein. Là, les absents, offensivement, en tout cas, on les a sentis, non ?
Oui, puis en plus, tu fais rentrer des joueurs qui, finalement, t'apportent rien, quoi. Bamba, autant Bamba quand il est remplaçant, parfois il fait du bien quand il entre. Là, moi, j'ai pas trouvé. Bon, il a provoqué des coups francs. Il a toujours ce petit coup de rein qui permet d'obtenir des fautes et des coups francs. Ablin, faudrait qu'il. Apparemment, Ablin, il est super bon aux entraînements, mais franchement, en match, on a l'impression qu'il est.
Il traîne un peu sa misère en match. Il fait pas de différence.
C'est
on sent le manque de confiance aussi, hein, ouais, les gestes, aussi. Etc.
Donc voilà, les remplaçants n'ont pas apporté grand-chose. Donc bon, c'est compliqué à partir de ce moment-là.
Pab.
Ben non, mais c'est Bamba, il a quand même créé la meilleure occasion lensoise au deuxième mi-temps parce que c'est
quoi, c'est son tir qui va au poteau corner.
Il fait une passe qui amène la frappe de Pereira da Costa, je crois, sauvée par.
Ah oui, d'accord, une occasion de l'autre côté. Ouais, tu fais de l'humour en fait, de l'ironie là, d'accord.
Ouais, mais c'est vrai que les attaquants ont disparu, quoi. Et moi, je trouve que c'est quand même la misère offensive, c'est quand même ça qui est inquiétant. Je crois que ça fait 3 matchs de suite en comptant le match contre Laval que tu marques pas, ça fait un but. Mmh. Que tu marques sur 5 matchs.
Allons-y. Alors allons-y. 3 buts en 7 matchs de Ligue 1 pour le FC Nantes. C'est famélique. C'est incroyable.
4 en 10.
Incroyable.
4 en 10 matchs.
Ouais, incroyable. Alors comment on explique ça ? Nantes s'est renforcé. Là, il manquait Benny Traoré qui est toujours suspendu et qui va revenir. Moses Simon, on attend son retour après la CAN.
Bon, n'oublions pas que le but de Kadewere, mais on va pas reparler de l'arbitrage, mais c'est vrai que but de Kadewere, pour moi, il est valable.
Ça voilà. Pouvait tout changer.
Il faut quand même le dire. Bon, le 1-0 doit être pour Nantes.
C'est une question de révélateur et de millimètre.
Ouais, ça joue vraiment rien. Bon, voilà. Après, oui, donc, n'empêche que c'est inquiétant. La bonne nouvelle pour Nantes, c'est que dimanche à Toulouse, il y aura le retour de Benny Traoré. Alors on va voir
ce que ça vaut exactement. On l'a vu en neuf un petit peu
je pense que
il peut apporter, puis surtout il y aura le retour de Simon pour le match de Paris.
Le Messi du FC Nantes.
Non, mais
on attend tout de son retour pour être capable de provoquer les choses.
Beaucoup de lui.
Mais on l'avait dit qu'offensivement, c'était ton joueur numéro un et que ça posait problème au bout d'un moment. Le problème de cette équipe-là, je trouve, au-delà, elle ne marque pas de but. Et je l'avais dit le week-end dernier, après le match contre Reims, c'est que dans les schémas et dans la construction des actions, je trouve ça un peu stéréotypé. Enfin, on était avec Nicolas Mangard à Reims, c'était toujours le même système où ça repart de derrière, ça passe au milieu, et au milieu de terrain, au bout d'un moment, tu sais pas trop quoi faire, tu mets sur le côté pour un centre qui était repoussé par la défense. Et à un moment, il faut se poser la question aussi, pour moi, du milieu de terrain, Douglas Augusto, Chiribella, Sissoko, qui... voilà, fonctionne bien pour couvrir du terrain, pour récupérer des ballons, mais qui peut-être offensivement, pour te créer du jeu, te créer des situations, est peut-être pas au top, avec un Mollet qui est isolé souvent sur le côté, qui presse énormément et qui est pas là pour construire du jeu.
Moi j'ai préféré, sur cette question du milieu de terrain, j'ai préféré Sissoko un poil plus haut, Chirivella dans sa position basse habituelle, avec des circuits de passe dont on avait l'habitude avec Pierre Aristouille à l'époque. Chirivella, vous savez, quand il est de trois quarts et que dans un relais à trois, et il lance dans la profondeur un des attaquants. Alors là, le problème, c'est que c'est Mollet, mais quand ce sera Moses Simon d'un côté ou Benny Traoré de l'autre, il y aura peut-être davantage de vitesse.
Même
en tout cas, ce milieu à trois qu'on critique, et je suis le premier depuis plusieurs semaines en disant qu'en mettant les trois, tu te prives finalement d'un offensif, que ça fonctionne pas, Pedro. Là, je trouve que Pedro, plus reculé, et Moussa un peu plus haut, sur la bonne demi-heure nantaise, c'était quand même assez séduisant. Hein,
Je pense que c'est circonstanciel aussi, c'est Lens qui permet ça, c'est parce que c'est une équipe qui a monopolisé le ballon, notamment dans le premier quart d'heure et puis en début de deuxième, et elle te permet aussi d'avoir un jeu de transition rapide et d'évoluer en contre-attaque. Je suis pas sûr que...
Moi, je te parle de la bonne demi-heure, là, oui. Jean-Marcel.
Bah oui, mais c'est Lens qui permet ça. Moussa Sissoko, en fait, il a surtout été important, non pas dans le jeu, mais dans la façon de casser les lignes par ses courses et d'avoir des ballons. Toutes les plus grosses occasions nantaises, elles viennent quand même sur des ballons récupérés et des contres. C'est pas une équipe...
Transition rapide.
De transition rapide. Et Lens permettait ça, en tous les cas. Je suis pas sûr que tu puisses reconduire ce système-là avec un Sissoko aussi influent face à Toulouse ou autre.
Moussa Sissoko un peu plus haut, c'est sa place. Il nous l'a dit après le match.
J'ai un profil totalement différent de Douglas et Pedro. Je suis quelqu'un qui me projette plus, voilà, avec plus d'impact physique aussi. Donc je pense que je peux déranger les défenses adverses. Voilà, avec le jeu combiné, on a su me trouver dans la profondeur. J'arrive au moins casser les lignes. Et c'est là où je peux faire le plus mal et être le plus bénéfique à l'équipe. Donc vous l'avez vu comme moi, que avec l'arrivée du nouveau star, j'ai beaucoup plus de temps de jeu. J'enchaîne. Donc à partir du moment où tu enchaînes, ça devient plus facile. Avec mon gabarit, mon style de jeu, donc j'ai besoin de me sentir bien physiquement. Là, c'est le cas depuis un certain temps.
Bon, il est mieux physiquement pendant
ça se voit. On dirait l'humilité de Jean-Marcel Boudard.
Sur les deux derniers matchs, qui est moins bien physiquement en ce moment. Par contre, sur les deux derniers matchs et deux matchs précédents, moi je disais, ça y est, il commence à piquer. Il a fait trois bons matchs, deux matchs plus moyens. Là, ça y est, il retrouve à nouveau, mais c'est vrai, dans une position un peu plus haute, son rayonnement. On ne sait pas ce qu'il faut en faire de ce Moussa Sissoko. Jean-Marcel, toi, tu n'es pas convaincu complètement, si j'ai bien compris.
Je pense que c'est circonstanciel. Je suis pas sûr que face à un bloc bas, tu puisses te permettre d'avoir une utilisation aussi optimale de Moussa Sissoko comme tu l'as eu contre Lens.
Vous êtes sur la même ligne.
Moi, je trouve que c'est Mollet qui est mal utilisé. C'est plutôt Mollet qui, contre des blocs bas dont tu viens de
qui
parler,
devrait
ça,
jouer.
Qui devrait jouer parce que c'est lui qui est censé pouvoir organiser le jeu du FC Nantes. Et là, lui, il est sur ce côté. Et franchement, il est décevant de match en match. Là, Mollet, il va falloir le sortir à un moment parce que c'est plus possible, ou alors il faut le recentrer
sortir,
vraiment.
Mais tu mets qui,
non,
c'est ça le problème.
Là, il va y avoir le retour de Benny Traoré.
Il y aura des choix à faire.
Jusque-là, en fait, tu n'avais pas non plus.
Mais tu pouvais mettre Bamba sur un côté.
Mais non, mais tu ne peux pas débuter Bamba.
Tu es au titulaire,
mais tu mets 30 minutes et puis tu le sors. L'intermittence.
J'aime bien ce coaching de comptoir.
Tu le sors une demi-heure, puis tu le fais rentrer sur la dernière demi-heure à nouveau. On peut le faire ou pas?
Ah oui. Ok. Ça, non, tu n'as personne d'autre à droite?
Je ne sais pas, si tu suis le FC Nantes,
Strader à pas.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Strader à pas.
Tu mets Marcus.
Ou tu mets Marcus Coco, il l'a déjà fait, le mettre sur le côté droit. Mais je trouve que là, Mollet, il est utilisé à contre-emploi, c'est ce que je veux dire.
J'attends quand même le retour, effectivement, le retour de la CAN de Moses, ça va changer beaucoup de choses. Hein, parce que moi, j'ai bien aimé Kadewere. sur la bonne demi-heure nantaise, j'ai trouvé que Kadewere était quand même intéressant. Et je l'avais trouvé intéressant aussi sur ses premiers matchs, même si à Reims, c'était un peu plus compliqué pour lui tout seul en pointe. Mais techniquement, dans la percussion et puis dans sa qualité de frappe, parce qu'il y a le but qu'il met, il a quand même du sang-froid. La frappe enroulée qu'il met, c'est Samba qui fait un énorme arrêt, alors qu'elle est pas facile à frapper comme ça. Moi, je le trouve intéressant. Et là, sur un côté, j'attends de voir son association avec Mohamed, peut-être devant, peut-être un changement de système quand Moses va revenir.
Pour finir sur ces statistiques, on les a un petit peu adoptées. Enfin, on s'offusque plus. 3 buts en 7 matchs. Non, mais c'est dingue, mais c'est du foot, quoi.
Il y avait une recherche d'équilibre depuis le début de saison, que ce soit avec Pierre Aristouille ou avec Jocelyn Gourvennec, même si ça avait été le travail de Pierre Aristouille sur la fin de son mandat, c'était de trouver un peu le bon équilibre entre être dangereux et être solide. Il a d'abord démarré par le chantier de la défense. C'est aussi une équipe qui prend peu de buts, qui est beaucoup moins perméable qu'elle l'a été. Malheureusement, effectivement...
elle perd 1-0, quoi. Contre Laval, elle perd 1-0. Contre Lens, elle perd 1-0. Bon.
Oui,
mais il y a un vrai. Bah, je le dis, c'est une constance depuis 10 matchs, puisque tu as 4 buts sur les 10 derniers matchs. Donc, c'est cette quête d'équilibre, elle s'est faite au détriment... de ta puissance, de ta force de frappe offensive. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas... Tu les as, les occasions, donc tu peux les mettre. Tu les as à Reims, tu les as contre Clermont. Donc, ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est notamment sur la deuxième mi-temps, au-delà de l'impuissance, c'est que tu crées pas grand-chose. Et même en première, par séquence, on a vu en tous les cas que lorsque le bloc était trop bas, tu avais beaucoup de courses à remonter et on a vu des joueurs isolés. Enfin, je me rappelle d'une action où tu as Tino Kadewere avec Mustapha Mohamed. Ils sont à 2 contre 5 en côte. Donc, c'est vrai que ça manque aussi un peu de soutien et qu'il n'y a pas, en tous les cas, une dynamique d'équipe dans les projections pour créer du surnom et pour se montrer dangereux.
C'est ce qu'on voyait avec Pierre.
Voilà, c'est Pierre Aristou,
il faut le reconnaître.
Exactement. On va terminer cette première partie avec cette question que tu as souhaité poser, David. Gourvennec est-il Poissard ? Point d'interrogation. Rien ne tourne en sa faveur. Décision arbitrale, inefficacité de ses attaques. 4 points pris sur 21 possibles. Peut-il résister longtemps avec Toulouse et Paris qui arrivent? Alors je te laisse y répondre parce qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus.
C'est une question, je ne l'affirme pas parce que certains vont dire que c'est vrai qu'il. Alors il est évidemment responsable de ces très mauvais résultats. Son bilan il est catastrophique. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réussite. Alors il y a eu des décisions. Ce ne sont pas des excuses. Hein. J'essaie d'expliquer que je trouve que depuis qu'il est là, il est porté par la poisse, par
à
la
l'image
poisse,
du pénalty Kadewere,
alors évidemment pénalty loupé, les décisions arbitrales sur les 3 ou 4 derniers matchs qui sont vraiment défavorables, sauf
bah attention parce que Zézé aura pu être expulsé,
Zézé doit prendre un rouge,
ça finira
mais il n'empêche qu'il y a ce but refusé. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a la loose un peu en lui et c'est ce qui m'inquiète un peu. Voilà, après, il est aussi responsable.
Moi j'ai du mal avec ces choses-là. C'est pour ça que je te chambre un peu là-dessus.
C'est un truc un peu irrationnel.
Ouais, c'est un peu irrationnel. Parce que si t'as 5-6 occasions, t'es plus à regarder. Bah pas de chance sur la seule occasion que t'as de pas l'avoir.
Il y a aussi des choix que je
fais. Ça me fait penser. Il y a deux périodes en fait dans ce qu'a fait Jocelyn Gourvennec. Il y a avant la trêve et après la trêve. Enfin, personne n'a oublié les matchs.
Effectif remodelé.
Oui, effectivement, mais même pas que l'effectif en tous les cas. Enfin, on sent que sa patte, elle est plus prégnante depuis la reprise qu'elle ne l'était sur les matchs de Lyon et de Brest. Le problème, c'est que les matchs de Lyon et de Brest, ils comptent aussi.
Mais le seul match qu'il a gagné, c'est le premier, c'est Nice.
Et donc, moi, ça me fait penser un peu à je ne sais pas si vous vous souvenez, au match de Nantes à Clermont, au match aller, où Pierre Aristouille ramène une victoire précieuse qui a été salvatrice pour lui, qui lui a permis d'enclencher une série de 4 victoires. Mais ça se joue sur un fil. Pierre le disait d'ailleurs.
Un pénalty
dans les arrêts de jeu que Clermont rate. Ouais. Et tout était remis en cause sur cette lecture-là. Et aujourd'hui, ça se joue à la fois la dernière occasion de Clermont. Je pense que si tu as pris un nul, et à la fois le pénalty de Tino Kadewere à Reims, il pèse très lourd en fait aujourd'hui dans le bilan comptable du
FC Nantes. Il pèse très lourd à la fin.
Parce qu'on n'a pas du tout la même lecture. Je pense que. Si tu avais été gagné à Reims, tu bonifiais cette victoire par un nul à Lens, il n'y avait rien d'incroyable et tu n'allais pas, en tous les cas, sous pression comme tu l'étais, comme tu vas l'être, en tous les cas à Toulouse sur un match charnière où tu sens que c'est un peu déjà un vrai tournant du championnat.
Tu peux avoir 3 points de plus si on t'écoute bien, c'est-à-dire un nul contre Clermont et 2 points en plus.
J'ai fait le bilan comptable.
Ça fait 22.
Oui, c'est vrai.
Depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec,
21 points.
Mais attention. J'ai fait le bilan comptable depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. Aujourd'hui, le FC Nantes est 17e. Seul le FC Metz a fait pire. avec 0 points, cette défaite d'affilée. Et derrière, en fait, ça patine un peu. Et c'est pour ça aussi que Nantes n'a pas complètement décroché, puisque Clermont a pris 5 points, mais on en a pris 3 contre 3. Donc seulement un point de plus. Voilà, Lorient a pris 5 points, mais je sens qu'à Lorient, il y a une nouvelle dynamique, et notamment depuis l'arrivée des Mouzin.
Ils ont remodelé l'effectif, donc c'est un nouveau Lorient.
Ils l'ont remodelé intelligemment, en tous les cas. Certains ont remodelé l'effectif. Ouais, Louza est très très bon, mais alors certains, j'entends les commentaires.
Il sera sur It West jeudi, tiens, je fais une pub dans Cop West.
Est-ce que Louza pouvait venir à Nantes? Oui, c'était la priorité de Pierre Aristou, il était dernier. Oui, il a été reproposé sur ce mercato d'hiver là, et Valdemar Keïta le voulait, pas le staff technique ni la direction. Mais en fait, aussi pourquoi Imran Louza vient pas, c'est parce qu'il n'est pas un numéro 10, contrairement à ce que certains le voient comme un remplaçant potentiel de Mollet. Aujourd'hui, Louza, c'est une vraie sentinelle. Il joue dans un milieu à double pivot.
Et t'as déjà Augusto, Chirivella et Sissoko.
Et en fait, je comprends les mêmes. Ceux qui ont gagné en tous les cas depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec, c'est Toulouse qui prend 8 points et encore 6 sur les derniers matchs, et Lyon qui prend 12 points. Ce qui explique aussi pourquoi c'est ultra serré.
Non, mais Lorient qui remonte, ça devient chaud, hein. Vraiment. Hein.
Oui, surtout qu'on va avoir un Lorient-Nantes après Paris dans 3 matchs. Donc,
Pab.
Ce qui est terrible sur Jocelyn Gourvennec, c'est qu'en fait, finalement, son tout premier match contre Nice aurait dû. Tu parles de dynamique, de lancer quelque chose. Son premier match contre Nice devait lancer quelque chose. Mmh. T'avais une équipe qui était invaincue, qui prenait pas de but depuis 9 matchs. Tu gagnes 1-0 à la Beaujoire.
Oui, mais tu vois, on parle de chance et tout. Il y a de la réussite ce jour-là parce qu'il le mérite, mais Lafond est extraordinaire, il fait des parades incroyables.
Je voulais revenir un peu à la question initiale de David sur est-ce que Nantes a la choucoume en ce moment. C'est que quand ça va pas, mais c'est pareil pour tout le monde en fait. Quand ça va pas, tu vois que les signes négatifs, que les trucs qui vont pas. Hein.
C'est que t'en fais pas assez. Mais c'est que il y a des équipes qui ont des échecs, se procurent davantage d'occasions.
Oui, bien sûr. Mais
souvenez-vous, Clermont dont parle Jean-Marcel. Excuse-moi, je te coupe la parole deux secondes. Mais ce que nous dit Jean-Marcel, les joueurs se projetaient dans la surface de réparation. Vous voyez Moutou Samy très souvent.
C'était pas un grand match à Clermont. La deuxième mi-temps, enfin, c'était quand même purge. C'était horrible.
Le but de Moses, c'est quand même extraordinaire.
Ça avait été miraculeux.
Je retiens ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que les joueurs se projetaient davantage et que c'est vrai qu'on a senti de l'impuissance parce qu'ils étaient assez seuls devant face à Lens.
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autre trait d'esprit, en tous les cas, si juste pour finir, sur le caractère. Tu parles du caractère de cette équipe. Pierre Aristou s'en est plaint en disant qu'il manquait, en tous les cas, de leader. Il y a une stat qui le prouve, c'est que Nantes a concédé 10 défaites en ayant été mené au score cette saison. Seuls Lens et Lyon font pire. Et on sent qu'en tous les cas, qu'une fois qu'ils sont menés, ça me rappelle un peu la saison dernière avec Antoine Camboiré, c'est quasiment fini.
Mais à la mi-temps, on se dit même, non, t'as raté trop d'occasions pour s'en sortir.
Perdre, ils vont le perdre, on le sent venir.
On le dit à la pause.
Quand ça va pas, tu ne vois que ces signes-là. Par exemple, l'arbitrage, je trouve qu'à un moment, on regarde trop l'arbitrage. Enfin, effectivement, il se trouve qu'il y a des situations.
Non, mais c'est pas une excuse. Non, mais
il y a des situations qui font que. Mais tu prends Reims, il y a eu des débats, mais même au club, des débats pas possibles sur Tchemert, est-ce qu'il devait y avoir rouge sur Darami? Oui, ok. Sauf que derrière, t'as penalty que tu mets pas. Contre Lens, oui, t'as le but qui est refusé vraiment limite pour Kadewae. Oui, mais Zézé peut prendre un rouge derrière. Mais en fait, tu te focalises que sur ce qui va pas.
Oui, c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs sur le débat qu'on a fait sur l'arbitrage.
Ouais, je sais que ça a pas plu à certains.
Parce que vous n'allez pas faire 10 minutes sur Zézé.
Mais c'est pour ça qu'on va pas. On arrête d'en reparler.
La saison dernière, il y a eu un peu cette même période-là pour Nantes. Je me souviens, j'avais eu en entretien Alban Lafont avant la Coupe du Monde au Qatar.
Ah, super !
Oui, il parlait. Et en fait, à ce moment-là, il prenait des buts. Dès que l'adversaire avait une occasion, il prenait un but aussi. Et je lui disais, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir Ashkoun ? Et il dit, des fois, c'est un peu cette sensation-là où tu as une forme d'impuissance où, c'est des périodes comme ça. Mais il suffit que d'un match, peut-être qu'à Toulouse, tu vas gagner sur un coup de chance en étant dominé et ça peut basculer. Mais c'est une question pour moi.
Le hasard existe, mais dans le sport de haut niveau, il se reproduit rarement.
Mais c'est une question
d'état
d'esprit.
Oui, il y a une constance en tous les cas qui est inquiétante pour rejoindre Simon sur le FC Nantes. Il y a des chiffres là qui sont récurrents depuis un moment et qui font. C'est une équipe aussi. D'ailleurs, Jocelyn Gourvennec, on a un peu parlé en conférence de presse d'après-match où il évoque pas d'impuissance, mais il explique en tous les cas le scénario de la deuxième mi-temps où ils ont beaucoup couru, dépensé énormément d'énergie, parfois de manière désordonnée, et il laisse entendre, et aussi on a il le dit, on a manqué aussi de qualité par moment. C'est-à-dire qu'il y a une équipe-là, parfois, elle manque aussi de qualité dans la tenue du ballon. Ouais. Il y a, pareil, tout, par rapport à Lens, la stat, Nantes a rivalisé avec, avec le RC Lens, y compris dans ses mauvaises périodes, que ce soit en termes de duel gagné, de duel aérien, ils font quasiment jeu égal. Donc on ne peut pas leur reprocher de la débauche d'énergie. Par contre, où ils font la différence, c'est dans les passes, dans le dernier tiers adverse, où là, il y a un écart qui est abyssal entre les deux équipes. Et effectivement, ça s'est accru, notamment en deuxième période, où Nantes n'a rien produit.
Il suffit de regarder les bancs, hein, où tu as un Thomasson à Lens, Fulgini, qui rentre pas, des Fulgini.
Et Jocelyn Gorenec disait aussi après le match qu'à un moment, ce contexte-là et ce manque de confiance, ça joue aussi dans le jeu. Il dit, bah voilà, quand on a une occasion ou une passe à faire, peut-être que les joueurs aujourd'hui réfléchissent à deux fois avant de la faire ou avant de tenter quelque chose. Ça rentre un moment dans la tête.
Il faut bien briser cette spirale un moment, parce que voilà, il y a eu un changement de coach pour ça aussi. Et est-ce qu'il est sous pression? On termine avec Toulouse.
Oui, évidemment qu'il est sous pression. La moitié de points par rapport à Pierre Aristouille, la stat est sortie, il prend 0,7 points par match contre 1,15 ou 1,17 pour Pierre Aristouille.
C'est 0,50 et oui, contre 1,15. Non, mais évidemment qu'il est sous pression. En plus, on connaît la... on connaît son président, hein, président Kita. Ils vont, voilà, je sais que la direction est très inquiétée par ses résultats. Il est sous pression.
Moi, je trouve que ce match
de Toulouse, parce qu'en plus, il y a Paris derrière. Donc, Paris, vous pouvez déjà faire une croix dessus. Vraiment.
Non, je suis pas sûr. Ouais, après, c'est entre un match de Ligue des Champions.
Mais vraiment, ce match de Toulouse, il est charnière dans cette saison. On va pas dire que c'est le match de l'année, parce qu'on est au mois de, février. Mais
on avait dit ça clairement, ils ont perdu.
Non, mais le mois de février, les capitales.
Parce que après il y a
Lorient et Metz derrière. Juste à Lorient et Metz derrière.
Il y aura Lorient et Metz. Et donc on peut imaginer que Gourvennec aura le temps, au moins ces quatre matchs-là.
Je vois les gens sur les réseaux sociaux qui disent hey, quand est-ce qu'ils vont le virer, là c'est bon, ras-le-bol et tout. La direction se dit, Gourvennec, il a pris des décisions pendant ce mercato. Ils ont recruté 4 joueurs, il y a 7 départs. Il a vraiment souhaité, comme il le dit, réoxygéner ce groupe. C'est lui qui a fait des choix assez fort, de mettre des joueurs à l'écart, d'en renvoyer certains chez eux, de prendre des recrues, ce sont ses choix. Donc il faut peut-être lui laisser un peu de temps. Les gens vont hurler, je sais. Non, il faut le virer. Tout le monde dit il faut le virer. Peut-être lui laisser les 4 matchs qui arrivent. Et là, s'il n'y a aucun résultat sur ces 4 matchs, je pense que là, la direction n'aura plus le choix.
Ah bah, il y aura des adversaires directs, pas Blady, derrière Toulouse et Paris. C'est Lorient et Metz. Jean-Marcel, rapidement.
Non, mais déjà, la direction est prisonnière de sa décision d'avoir évincé Pierre Aristouille en novembre pour remplacer Jocelyn Gourvennec, puisqu'elle se met la pression. Elle s'est mise la pression toute seule, en fait. Et elle se met dans cette situation-là toute seule. Je pense qu'on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu tout ce changement, et notamment par rapport aux arguments.
On n'en sait rien, Jean-Marcel.
Et par rapport aux arguments qui ont justifié ce changement, à la fois, c'était on veut être rassuré, il faut nous rassurer. Bah, résultat, c'est pire, aujourd'hui que dans la situation. Ceci dit, tu avais 4 points d'avance sur le place du premier barragiste lorsque Pierre Aristouille était là, tu n'en as que 3 aujourd'hui. Donc, je veux dire, même si tu es sur une série de défaites, paradoxalement, tu n'es pas non plus dans.
Heureusement que tu as des boulets derrière.
Oui, mais sauf qu'il n'y a plus qu'un boulet pour moi, il n'y a plus que Clermont. Les autres sont dans le rythme du
FC Nantes. Ils sont dans une dynamique. Mais pour moi, quels que soient les coachs, et en tous les cas, je ne sais pas si les gens sont influencés aujourd'hui par une décision qui est très instable et très changeante. C'est-à-dire que dès que les résultats ne vont pas, on change de coach. Mais si on regarde Strasbourg, donc on a dit qu'ils ne mettaient pas un pied devant l'autre, je pense qu'ils ont fait le dos rond. Il faut regarder où ils sont aujourd'hui.
Vieira, il était critiqué, hein, t'as raison.
Toulouse, qui était au bord du gouffre sur une pente glissante, vient d'enchaîner. Deux victoires d'affilée, et Lorient qui était dans un contexte qui était beaucoup plus nauséabond que celui du FC Nantes à la fin de l'hiver, en tous les cas fin du mois de décembre, et aujourd'hui en train de recréer quelque chose.
Montpellier calme un peu avec
tu peux
Michel.
Pas changer, surtout qu'on n'est pas dans la situation, pour moi en tous les cas elle est complètement différente de la situation où on se retrouvait avec l'arrivée de Raymond Domenech, où non seulement on avait une crise de résultats, mais on avait une crise de jeu et de contenu, ce qui est toujours qui pour moi en tous les cas n'est pas le cas encore aujourd'hui, où j'espère que Jocelyn Gourvennec a des ressorts pour inverser les choses.
C'est de toute façon son discours depuis qu'il est arrivé. Jocelyn Gourvennec, il est arrivé, il a dit je prends en main une situation, je veux mettre des choses en place. Comme dit David, il a façonné le groupe comme il le souhaitait avec le mercato, le réoxygéner, le réduire. Il a mis en place, comme disait Jean-Marcel tout à l'heure, d'abord la défense que font tous les coachs quand ils arrivent en général, quand t'es en difficulté.
C'est que tu prends les buts.
Tu solidifies d'abord. Et après, tu essaies de créer quelque chose. Donc là, il est en train de mettre en place des choses, même par rapport aux jeunes, on en parlera tout à l'heure. Il met des tas de choses en place. Après, malheureusement, il n'est pas payé aujourd'hui au niveau des résultats. Il n'y a que ça qui compte.
Et en Ligue 1, il y a ouais, aussi y a que ça, qui, ça compte. On est d'accord. Allez, on parle de ce mercato que tu viens d'évoquer. On en fait le bilan.
Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. David Filippo, Ouest France. Simon Rongoat, Eat West. Contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Un mercato d'hiver avec des mouvements dans tous les sens. Un des plus actifs hein, de l'ère Kita à cette période. On comptabilise désormais 4 arrivées et 7 départs. Que pensez-vous des choix opérés et des profils des joueurs qui ont rejoint le FCN? Et puis la cellule de recrutement est-elle vraiment efficace?
C'est Sia, non?
Non, c'est Pink.
C'est Pink.
Ah, Pink, yes.
Et le titre?
What a badass.
Petite formation anglaise à Ouest France. Hein.
Il va falloir. On penser, l'a pas dit d'ailleurs, je t'en ai pas parlé à l'entretien annuel.
Wadabadas.
Ouais, t'as boutus.
Et nous, on en pense quoi de ce mercato d'hiver? 4 arrivées, Kadewere, Traoré, Amiens et Kodza. Et puis 6 départs, Hudson, Marquinhos, Adjam, Merlin, Santonce, Diak et Pierre Gabriel qui a fait ses valises pour, vous l'avez annoncé ce matin,
Dynamo Zagreb.
Dynamo Zagreb en Croatie.
C'est, ça va se faire là dans les heures à venir.
David, on va jeter un coup d'œil sur le sondage. Oui. On va prendre l'avis des auditeurs sur ce mercato d'hiver. Bilan selon les tweetos.
Alors, comment jugez-vous ce mercato d'hiver? C'est ce qu'on a posé comme question sur Twitter. Il y a eu plus de 2000 votes. Plutôt réussi 15%, neutre 25%, plutôt raté 13% et improvisé comme d'hab 47%.
Donc la grande majorité des gens retiennent l'improvisation.
Ce qui est embêtant, sachant que le FC Nantes à une cellule de recrutement depuis plusieurs mois.
On va en parler de cette cellule de recrutement dans un deuxième temps. D'abord, sur tous ces mouvements, est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est logique qu'il y ait un tel bouleversement sur cette période hivernale? Jean-Marcel.
C'est un mercato fructueux déjà, puisque ta balance est excédentaire, je crois, de...
Avec la vente de Merlin.
De 16 millions d'euros, je crois. C'est pour un mercato d'hiver, c'est quand même pas mal. Ça, c'est la première chose.
On fait rentrer l'argent, c'est ce que tu nous dis.
En tous les cas, oui... Oui, c'est pas moi, c'est les chiffres qui le disent en tous les
oui,
cas.
Oui, alors après, il y a les 12 millions. Après, Hudson, t'as dépensé 6, tu le revends 5,5. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, t'as perdu 500 000 étant un
gagnant. Oui, non, mais voilà, mais je suis d'accord.
Oui, c'est sans commune mesure avec ce que t'as fait. Pour un mercato d'hiver, en tous les cas, c'est un mercato qui a été efficace sur le plan, sur le plan financier. Après, c'était un mercato, on n'attendait pas. Je trouve qu'il a répondu, en tous les cas, ce mercato. Il a une vraie logique, contrairement à celui de cet été. Il a répondu aux besoins et aux attentes de Jocelyn Gourvennec. On peut être d'accord, pas d'accord, mais en tous les cas, il a le mérite de répondre à ça. C'est à la fois d'avoir du sang frais.
Devant.
En général, dans l'équipe, par des joueurs qui apportent autre chose, avoir de la vitesse devant, on a eu avec ces deux profils.
Et Traoré.
Et d'ailleurs, dans la guigne qui accompagne Jocelyn Gourvennec, c'est vrai que ça aussi, c'est le Benny Traoré, son carton rouge, mine de rien, contre Clermont,
ça change,
pèse très très lourd sur les derniers matchs. On l'a sans doute pas mesuré.
T'en avais besoin en l'absence de Simon.
Et ensuite, effectivement, tu as fait des départs, tu as resserré ton groupe, pour plein de bonnes raisons. Le bémol pour moi, c'est
toutes les erreurs de casting, je les ai données. Hudson, Marquinhos sont partis, Diak aussi.
Et le bémol pour moi, ce n'est pas tant le départ de Quentin Merlin, qui je pense, en tous les cas, c'était la bonne période ou le bon moment pour qu'il parte, mais c'est plutôt son non-remplacement. C'est surtout ça le problème. Et on le mesure d'autant plus depuis la blessure de Kelvin Hermion.
Adjam et Merlin sont partis à gauche. Kodza est arrivé dans les dernières minutes. Pab.
Non, mais c'est assez rare quand même dans un club que tu arrives à. Alors malheureusement pour eux, parce que avec tout le respect, parce que ce sont des joueurs de foot, mais tu arrives à te séparer de tous les indésirables, globalement. Mm. Et c'est assez rare. Des fois, tu restes avec des joueurs qui te pourrissent un peu qui peuvent te pourrir le vestiaire, machin. Là, tous ceux dont ne voulait plus Jocelyn Gourvennec sont partis. C'est quand même assez fort de trouver des portes de sortie comme ça tout le temps. Même, tu vois, Hudson, c'est vrai que tu dis, il est revendu 5-5 alors qu'il a été acheté 6. Fallait trouver la solution pour revendre ce joueur-là.
Du point de vue de Gourvennec et de ses choix, mercato réussi pour toi, donc.
Bah oui, lui, il voulait resserrer le groupe, le rééquilibrer. Les joueurs dont il voulait pas sont plus là. Il peut intégrer des jeunes. Mais ce qu'on disait, c'était le boulet de Pierre Aristouille en début de saison, d'avoir un groupe... trop large, de ne pas pouvoir faire des choix. Après, j'attends de voir aussi ce qui va se passer quand tout le monde va revenir, quand Moses, Moutoussamy vont revenir, parce que là, il va devoir faire.
Tout le monde, c'est que deux joueurs, hein, c'est pas non
bah
plus.
Oui,
puis après, il y aura encore des blessés, des suspendus.
Oui, mais c'est quand même ton atout numéro un offensif.
Oui, Moutoussamy est revenu aussi. Hein,
voilà. Mais il va falloir faire des choix quand même. Mais après, je suis d'accord avec Jean-Marcel que sur le recrutement, j'attends de voir ce que ça donne à
gauche. Façon,
voilà. Bien sûr.
Alors, sur le papier, moi, je trouve que c'est pas trop mal, mais il y a un an, je disais que c'était pas trop mal de l'heure et mollet. Donc, bon, on a vu ce que ça avait donné.
Et même le recrutement de cet été était pas, sur le papier, était pas dégueulasse non plus.
Oh, c'était un petit peu désordonné quand même. Ouais. Il y avait un empilement. On prend Diak, puis finalement, on pensait que Sissoko allait partir.
Là, moi, je trouve que ils ont pris des joueurs en plus, 3 sur 4. Connaissent la Ligue 1, ça c'était un critère important pour Jocelyn Gourvennec, il a été plutôt respecté, et puis des joueurs qui sont finalement, et c'est la difficulté en janvier, c'est de trouver des joueurs opérationnels de suite, et je trouve que les quatre, peut-être Kodza a pas un gros temps de
on verra.
Jeu, mais voilà, les quatre sont quasiment
Kodza
opérationnels,
beaucoup joué, hein, quand même.
Maintenant, alors Amiens, on en parlera tout à l'heure, mais
on peut en parler
maintenant. Bon, s'il y a la blessure, alors un joueur qui n'est en plus jamais blessé, et là normalement il doit passer des examens aujourd'hui, on va le savoir très vite.
Écoutons
mais la blessure est
Amiens,
on a Kelvin et Moussa qui ont un problème musculaire à l'ischio. On verra, on va faire les examens. Kelvin, c'est difficile, il n'a jamais été blessé de sa carrière. Il a toujours enchaîné les matchs. Il vient de faire 2 ans et demi en Italie en jouant tout le temps, tous les week-ends. Jamais blessé. Il se blesse ce soir sur une accélération, donc c'est dur.
C'est dur de perdre un joueur qui se blesse jamais.
Il est dépité, il est au bout de sa vie.
Là, dans la poisse, c'est vrai que bon, ce sont des choses qui s'accumulent. Et comme Nantes est un petit peu court sur le côté gauche et que tu as que Duverne, on verra ce que vaut Kodza. Mais
c'est dit, même à droite, c'est
court.
Même à droite,
tu perds Pierre Gabriel et 111.
T'es court en latéraux. Parce que Coco, pour moi, est pas un.
Non, mais surtout que c'était un. Pourquoi t'as recruté Amiens? C'était pour avoir un profil plus défensif dans l'acte défensif. T'as un joueur qui sait défendre.
Alors, sur les 10 premières minutes, il s'est fait prendre 2 fois.
Mais
c'est la mise en route.
Il a été bon à Reims. Il y a sans doute des circonstances qui expliquent en tous les cas peut-être le trou d'air qu'il a eu face à Chavez et puis à Pereira da Costa, mais après moi j'ai pas le jugé sur ces 10 minutes là contre Lens. Ceci dit, c'est une vraie perte qui va avoir des conséquences. Ouais. Ils étaient assez inquiets et on le comprend à juste titre de la durée de son indisponibilité, puisqu'effectivement si c'est 1 à 2 mois, tu as ton couloir droit que tu pensais avoir solidifié et t'as perdu en tous les cas à gauche.
On a vu que Castelletto pouvait
dans
faire
une défense qui est très instable.
Le dépannage. Bon.
Oui, parce qu'il
mais c'est ton patron de défense.
Il a dit lui-même qu'il joue
en équipe nationale.
Castelletto qui dépannait à droite et que s'il n'était pas fan et qu'offensivement il n'arrivait pas.
Il n'y a pas un jeune, Jean-Marcel?
À droite. Pas à droite.
À gauche.
Sinon, il serait là depuis longtemps. Non, c'est trop jeune. Bah, à gauche, il y a Hugo Boutinga, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas tenu le poste. Avec la réserve, il a été replacé au milieu.
Milieu, ouais.
Voilà, c'est pas du tout le même profil. C'est pareil, c'est un ancien milieu de terrain replacé à gauche qui peut être très bon dans une défense à 3 sur un couloir, mais peut-être pas dans une défense
juste
à 4.
Juste, on parlait de défense resserrée. Tu vois quand même les intentions de Jocelyn Gourvennec, parce que quand Amiens sort, c'est pas Coco qui rentre, c'est Castelletto qui bascule à droite et Palois qui rentre dans l'axe.
Oui, bien sûr.
Et tu mets vraiment des défenseurs.
Bah, t'as un défenseur de métier,
quoi.
Tu le fais entrer et tu fais pas entrer Coco. Et effectivement, il veut que les quatre, là, bétonnent l'arrière-garde nantaise.
Il y avait 4 axios, du coup.
La cellule de recrutement. La cellule de recrutement. Un petit mot, quand même, sur cette cellule de recrutement. Est-ce qu'elle est à l'origine de tout ce qui s'est passé dans ce mercato? Est-ce que c'est un désaveu aussi de ce qui s'est passé l'été dernier, ou alors elle venait d'arriver? David?
Quand vous avez 4 joueurs recrutés, donc 4 sur 8 recrutés l'été dernier qui repartent en janvier, on peut quand même dire que c'est un demi-échec. 4 sur 8 on va dire.
Alors les 4, alors Hudson, c'est le président
Hudson, Marquinhos, Pierre Gabriel et Diak. Voilà, Diak qu'on n'aura jamais vu.
Diak. Bon, Hudson, c'est un peu plus présidentiel que la cellule de recrutement.
Oui. C'est vrai que c'est un dossier.
Il y a eu des erreurs de casting quand même.
Et puis là, sur ce recrutement, on va voir.
Mathis Sabline qui était à deux doigts de partir et qui aujourd'hui est très très loin de ce qu'on peut attendre.
T'as raison.
J'avais oublié Sabline. Non, mais la cellule, on va voir
dans les. Ceux qui sont arrivés, Kadewere, Traoré, Amiens, Kodza.
Je sais que Benny Traoré, c'est un joueur qui était suivi avant l'arrivée de Baptiste Drouet, donc le nouveau chief scout, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire.
Responsable de la cellule recrutement.
C'est un joueur qu'il suivait déjà avant. Après, Kadewere, bon, je pense que même Jean-Marcel Boudard aurait pu le recruter.
Je sais pas, ça a lieu.
Non, mais on connaît tous, même Loïc Folio, fan
encore
de la Saint-Etienne. Non, mais on connaît tous Kadewere. Amiens, ce sont des joueurs qui sont identifiés. Ce qu'on attend temps de la cellule de recrutement.
Est-ce que Kozza était pisté? Ce qui s'est passé pour Kozza quand même, on peut, enfin, c'était Aïdara jusqu'au dernier moment qui a poussé, et puis bah, finalement Kozza, il avait peut-être vu, mais enfin, c'était un dossier qui était quand même loin dans la pile.
Bah, Aïdara, c'était la priorité et un peu la, peut-être l'erreur de, si je puis dire, de du club, la direction et de la cellule, c'est d'avoir tout misé sur ce dossier. Alors, il y avait quand même d'autres pistes, mais c'est vrai que la direction du FC Nantes était persuadée de faire Aïdara. D'ailleurs, je fais mon mea culpa puisque j'ai dit dans le podcast la semaine dernière que Aïdara allait venir et j'étais affirmatif parce qu'au club, tout le monde pensait et pas que la direction, que ce joueur allait venir. Et
ce sera pas ta première ni ta dernière saucisse.
C'est très très rare, c'est pour ça que Et non, ce que je voulais dire, c'est qu'on attend d'une cellule de recrutement qu'elle déniche des joueurs que nous, on voit pas, quoi, que les personnes, que des journalistes, que
par
des
la supervision,
lambda,
par les datas,
par vraiment des joueurs un peu qui viennent. Comment ?
Diac, tu le connaissais pas ?
Bah oui, mais dans ce cas-là, faut que ça marche. Dans ce cas-là, faut que ça marche.
Ouais, bon, là, on le connaît pas plus, hein, si.
Mais bah non, on le connaît pas plus.
Bon, on est d'accord. On va terminer avec cette question parmi les quatre arrivés: Kadewere, Traoré, Amiens et Kozza. Laquelle de ces quatre arrivés vous séduit le plus, messieurs? Pab.
Kadewere pour l'instant.
Kadewere, moi, je suis sur Kadewere. Je pense qu'on va tous dire ça.
Ça va être l'unanimité.
Ouais, unanimité sur Kadewere et Kozza. Évidemment.
Je l'ai pas vu, mais. Voilà.
Merci, messieurs. Voilà pour ce bilan mercato. On parle de la jeunesse maintenant et des relations avec les jeunes. FC Nantes.
Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. David Filippo, Ouest France. Simon Rongoat, Eat West. Sans contrôle.
Des Canaries à une touche de balle.
Le FCN opère une cure de jeunesse. Gourvennec qui lance des jeunes en Ligue 1 à l'image de Nathan Zézé, plutôt convaincant. On va en parler du défenseur central des Canaries. Quels sont ceux, les autres jeunes qui ont une carte à jouer sur la fin de saison? Comment ça se passe avec le centre de formation désormais? Et puis la Youth League, évidemment, avec ce match entre Nantes et Séville.
Forever Young. Forever Young, mais tu l'as déjà passé ça il y a peu de temps.
Bien sûr, bien sûr. C'est Alphaville et je le repasse parce qu'on a une conseillère musicale du podcast qui est un peu à court d'idées en ce moment. Bah oui, j'ai l'impression. Ouais,
c'est décevant.
C'est un petit peu plus difficile en ce moment. Donc voilà.
Elle a du mal à se renouveler.
Elle a du mal à se renouveler.
Évidemment.
Il faudrait peut-être qu'elle renouvelle ses relations.
Oui, message personnel, très bien. À l'image de Jean-Marcel, le plus jeune d'entre nous, dans sa tête au moins, commençons par Nathan Zézé. Il joue enfin en Ligue 1. Est-ce que c'est son vrai départ, Nathan Zézé, avec les pros? Est-ce que vous l'avez trouvé à travers ces trois prestations solides, rassurants? Jean-Marcel, vas-y.
Oui, c'est son vrai départ, puisque ça, il enchaîne. Ce qui ne lui était pas arrivé, en tous les cas, depuis son apparition dans
Montpellier.
À Montpellier. Alors, Montpellier, il avait bénéficié d'un concours de circonstances, effectivement. C'était peut-être pas là où il était le plus prêt. On pouvait imaginer que lorsqu'il était titulaire contre Toulouse en début de saison, il allait pouvoir enchaîner. Ça s'est malheureusement pas fait pour les raisons qu'on a déjà expliquées plein de fois. Et effectivement, on sent en tous les cas qu'il monte en puissance. Il me surprend par sa maîtrise des émotions, par ce qu'il dégage, le leadership qu'il a, c'est-à-dire que il est capable de commander la défense. Enfin, c'est lui qui replace, c'est lui qui dit au bloc de remonter, qu'il est Jean-Charles Castelletto à côté de lui ou Nicolas Palois, ça ne l'a pas effrayé. Il a un côté rassurant.
Il rassure, c'est important FC Nantes de rassurer.
Oui, c'est important, ça peut permettre de faire carrière. Et en tous les cas, je trouve que dans le contexte actuel où les jeunes quasiment passent un examen à chaque fois qu'ils jouent en équipe première, et notamment au regard de l'attente qu'il y a, je trouve qu'il est plus qu'au rendez-vous, même si il n'a pas encore montré tout son potentiel, notamment par rapport à son jeu de passe, et puis qu'il a encore des marges en tous les cas dans la prise de risque, sans doute dans les duels.
Gourvennec sur Nathan Zézé, c'était jeudi dernier en conf.
Bah c'est vrai qu'il est jeune encore, il est dans sa 19e année. Après, ça fait un an et demi déjà qu'il est avec les pros. Il avait joué un petit peu, c'était peut-être un peu trop tôt pour lui, mais là aujourd'hui il fait preuve de maturité, il est très à l'écoute, très travailleur, c'est très clair dans sa tête. Tout ce qu'on peut lui dire, il le garde, il retient tout ce que peuvent lui dire que ce soit moi l'entraîneur, le staff, mais aussi les cadres. cadres. Et les cadres sont bien aussi avec les jeunes qu'on a, parce qu'ils les conseillent bien. Quand on a un jeune qui écoute beaucoup et qui applique ce qu'on lui dit, bah, il avance vite. Il apporte beaucoup de bonnes réponses. Il faut qu'il soit encore meilleur dans ses choix, qu'il ne se fasse pas embarquer parfois, ou sur un côté, ou dans un décrochage, des choses comme ça. Ça vient aussi avec l'expérience. Généralement, chez les jeunes joueurs, au départ, c'est pas complètement clean sur la durée d'un match. Surtout pour un défenseur, on peut pas trop se tromper quand même, hein, sur des décisions. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour décider. Donc, est-ce que je suis le décrochage? Est-ce que je suis sur le côté? Est-ce que je lâche pour anticiper la profondeur? Toutes ces choses-là sont des décisions à prendre dans l'action et c'est pas toujours facile. Mais lui, je trouve, apporte les bonnes réponses et s'adapte assez bien.
Intéressant, hein.
Prémonitoire.
Ouais, la précision qu'a Gourvennec sur les progrès de Zézé par rapport au but encaissé, tu parles de ça, oui. Hein, Jean-Marcel, par le FC Nantes. Est-il le principal responsable sur ce but-là, où il est, c'est vrai, pour le coup, il décroche, il est un peu embarqué sur le côté.
Aspiré,
et puis,
ouais.
Ils sont deux, mais c'est lui qui donne le tempo, à savoir qu'il se fait aspirer effectivement par le décrochage de Wai. Je pense que s'il ne le suit pas, il est face au jeu et donc il est face à Da Costa.
Mais c'est aussi Douglas Augusto qui communique mal avec lui.
Ouais. Mais je pense que c'est lui qui est face au jeu, c'est pas Douglas Augusto. Donc c'est pour moi c'est à lui de te, ce qu'explique très bien Jocelyn Gourvennec, c'est-à-dire que c'est, mais la décision
ça c'était deux jours avant demi, hein, qu'il nous dit ça Gourvennec,
mais joue sur une demi seconde, mais effectivement il a pas pris la bonne malheureusement.
Non, puisque ce qui frustrait Gourvennec, ce qu'il a dit après le match, c'est que cette phase de jeu là de Lens, schéma de jeu, il avait travaillé avant, donc c'est vrai que c'est dommage.
Après, heureusement qu'il ait des choses à gommer.
Bah bien sûr. Après, je rejoins Jean-Marcel sur le côté maturité, moi, qui m'est pas de ce joueur-là. Quoi. On a l'impression que c'est un vieux briscard. Je trouve dans le placement, il est bon. On n'a pas parlé non plus de son jeu de tête, qui pour moi peut être très intéressant.
Oui. Offensif aussi.
Offensif. À Reims, j'avais trouvé aussi, on avait trouvé avec Nicolas, que c'était un des rares qui était capable de casser des lignes en faisant des passes intéressantes vers l'avant. C'est aussi lui, quand on parle de vieux briscard, quand que ce soit Tchemert qui sort, les deux fois Nicolas Palois rentre en cours de jeu et Nicolas rentre axe gauche et Nathan Zézé qui est gaucher passe axe droit.
Et ce qui n'est pas juste son poste. Hein.
Voilà, et c'est la preuve aussi que de la confiance qu'on lui donne.
Enfin, il a des certitudes pour pouvoir se permettre
et
ça.
Et pour revenir sur la situation où il peut prendre carton rouge, alors c'est vrai que l'image a arrêté. Bon,
alors allons-y, vous mettez rouge ou pas sur cette action-là?
Bah oui.
Oui, David.
Évidemment.
Non, Jean-Marcel.
Non, mais.
Attendez.
Non, sauf si la VAR appelle.
Ouais, c'est ça. C'est que là, en fait, moi, je suis à dire que la VAR est en légitimité pour dire, bah, sur l'image, en rouge, et il peut prendre rouge.
Mais je voulais parler de l'action.
Ouais.
Enfin, sur cette action-là, il fait quand même.
Il se bat deux fois.
Trois fois. Trois fois, il est.
Il s'arrache,
il gagne un premier duel, il se jette pour le deuxième, et en fait, l'image qui a arrêté avec ses pieds décollés, c'est qu'il est déjà au sol, et au sol, il essaie encore de jeter, essayer de faire ça avec les abdos qu'on a tous les quatre, essayant de faire ça.
Je peux savoir pourquoi le monsieur, il pense qu'il n'y a pas carton rouge, hein.
Bon, il est pas le seul, hein.
Parce que ça me semble tellement évident.
Parce que je l'ai dit en direct. Enfin, le foot reste déjà un sport de contact. Deux.
T'étais en direct sur quelle chaîne exactement? À tes voisins, tu veux dire? Oui, on en a parlé ensemble.
Et moi, je trouvais pas scandaleux. Alors après, s'il y a rouge, c'est pas non plus un scandale.
C'est ça.
Mais sur la première impression, moi, j'aurais trouvé très sévère. Qu'on l'expulse parce que il joue d'abord le ballon, il touche le ballon et effectivement il a le pied qui traîne, il est emporté, mais il n'y a pas, contrairement aux deux attentats qu'il y a eu à la fois celui de Benny Traoré sur le joueur de Clermont et celui de Darami sur Schmeurt, il n'y a pas c'est pas un geste qui traîne,
il n'y a pas d'élan.
Là c'est vraiment l'effet déformant de l'image,
et
pour avoir vu des matchs de Carlos Moser à une époque, je pense que c'était autre chose.
Carlos Moser, Eric Dimeco, Cyril Roll, je peux y aller.
Non, mais c'est vrai
qu'il y a un effet déformant de l'image sur cette faute-là. On va avancer en parlant du centre de formation, messieurs. Alors, on a évoqué Boutinga, on a dit Mahmoud aussi qui joue un petit peu. Est-ce que, voilà, ce sont des signaux qu'envoie Gourvennec au centre de formation, de voir ces jeunes qui entrent régulièrement en jeu? Et est-ce que ça se passe vraiment concrètement beaucoup mieux qu'avec Comboiré, où il n'y avait pas du tout d'échange, et Aristouille, où c'était un peu fâché?
Oui, je l'ai dit, ça se passe mieux avec la formation. C'est pas de la communication comme ça. certains peuvent le dire, Gourvennec a envie de s'appuyer sur les jeunes. Il y a une vraie communication, un vrai pont entre les pros et la formation. Et voilà. Donc, mais évidemment, je me répète, si Jocelyn Gourvennec n'a pas de résultats sportifs, il sautera comme tous les autres coachs.
Pab.
Non, mais de toute façon, tu le vois en termes de jeu des joueurs. Enfin, Zézé, on en parle, il vient d'enchaîner.
En temps de jeu.
Voilà, en temps de jeu. Il vient d'enchaîner déjà une troisième titularisation, alors que, ok, il bénéficie de circonstances avec Cassetto qui était à la canne, puis la blessure de Tchemert, mais. Mais il y a aussi Nicolas Palois, il y a d'autres mondes, et il a été préféré. Visiblement, dans la hiérarchie, aujourd'hui, il est devant Nicolas Palois, par
exemple. Ça s'est détendu à la Jaunelière, Jean-Marcel.
Contre Laval en Coupe de France, c'est Mahamoud, pardon, qui rentre à la place d'Abline, devant, alors que t'es mené 1-0.
Mahamoud, qui n'était pas dans le groupe, puisqu'il a ressenti une gêne musculaire le matin du match, qui a été remplacé à la dernière minute par Strederapa, qui était un peu à la cave.
Le retour en grâce.
Le retour en grâce, qui était aussi sanctionné par Gourvennec après des retards. Il faut savoir aussi qu'il était vraiment au fond du trou en décembre, parce qu'il a eu beaucoup de difficultés à digérer en tous les cas son non-temps de jeu sous les rares.
C'est presque un déclassement même.
Un déclassement, ouais, on peut le dire sans véritable raison, si ce n'est qu'il était victime du nombre et du fait qu'il était jeune et qu'il n'était pas une recrue et qu'il manquait éventuellement d'expérience. Et par contre, tout le monde s'accorde à dire qu'il a... c'est un bon exemple aussi de ce qui se passe, je trouve, au club, puisqu'il est plutôt bien revenu ces derniers temps avec la réserve. Et en tous les cas, les échanges qu'il y a entre la réserve, notamment au-delà des U19 et le groupe pro, permet aussi d'avoir des vraies solutions lorsque Adel Mahamoud se blesse et qu'on juge en tous les cas que tout le monde se met d'accord sur le profil de Strederapa pour le remplacer.
Mahamoud, moi j'ai découvert, c'est vrai que je ne suis pas particulièrement les jeunes, lequel a marqué des points et lequel pourrait s'illustrer encore davantage. Nathan Zézé, il fait presque figure de taulier désormais des jeunes.
Pour moi, Nathan Zézé d'ailleurs...
Non mais je ne parle pas de Zézé, je veux dire à part Zézé justement. C'est quasiment
dans les autres, Boutingham, Mahamoud.
Après, on les a pas vus assez.
C'est pour ça que je demande à Jean-Marcel qui les connaît un peu mieux.
Tu peux te taire, tu l'as
dit.
S'en fout.
Non, mais Apua, moi je l'ai vu jouer notamment en Youth League à Helsinki où je trouve qu'il était au-dessus. T'as l'impression des fois, Apua, ce contrôle de Jean-Marcel.
Il est un peu soliste, Apua.
Oui, il est soliste, mais parfois. Il donne quand même cette impression de jouer avec des enfants. Moi, c'est l'impression qu'il me donne. D'être au-dessus. Voilà. Et quand il avait commencé la saison dernière avec Comboiré en Ligue 1, il avait été intéressant.
On a vu des choses. Voilà.
Après, en fin de saison dernière, à Lille, avec Pierre Aristouille, à Pua.
Exactement.
Il passe tout près de marquer un but. Et Jean-Marcel, sur ses.
Juste pour finir sur les jeunes, on ne les a pas vus assez longtemps, mais j'ai bien aimé Mahamoud. Son activité, sa capacité de dribble, j'ai bien aimé. Ouais.
Strederapa, après il a aussi quelques lacunes qui sont liées à son parcours personnel, puisqu'il a été 2 ans sans jouer avant de reprendre le foot en centre de formation au PSG. Et c'est vrai que on sent que c'est un joueur qui manque d'expérience et de matchs par rapport à... Il a déjà 60 matchs de moins qu'un jeune de son âge quasiment, au regard de ses 2 années blanches. Et donc c'est vrai que ça peut lui peser parfois, je trouve. Même s'il y a un potentiel, mais il reste à polir. Et ce qui est important pour lui aujourd'hui, c'est qu'il joue, que ce soit dans le groupe pro et dans la réserve, et qu'il joue et qu'il soit consistant, quel que soit le niveau, en tous les cas, où il est appelé. Et effectivement, moi, j'ai bien aimé Adel Mahamoud, que j'avais vu avec la réserve, où j'étais un peu sceptique, puisqu'il avait tendance à... Comme me disait un de ses éducateurs, heureusement qu'il n'y en a pas 2 comme lui dans un groupe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est très gentil, qui est fantasque. Et le
ça se voit sur le terrain.
Oui, qui peut. Par contre, c'est vrai que dans une équipe.
On a vu beaucoup d'envie, un peu dispersé, mais beaucoup d'envie dans son entrée.
Oui, par contre, il a défendu, ce qu'il ne fait pas toujours quand il est en dessous. Mais c'est surtout que c'est un joueur qui est capable de prendre des risques, et dans une équipe qui est inhibée parfois comme celle du FC Nantes ou qui peut douter, je trouve qu'il a une vraie apport. Enfin, lui, quel que soit le niveau ou l'enjeu, en tous les cas, lorsqu'il est rentré, notamment contre Laval, il n'a pas eu peur de prendre le ballon et de tenter des choses. Et c'est quelqu'un qui a des vraies capacités, qui est très doué, qui est au-dessus techniquement, mais qui doit aussi s'améliorer et épurer son jeu.
Tu confirmes que par ailleurs c'est fluide en ce moment avec le centre de formation à la Jaunelière, tout se passe bien.
Ce que tout le monde dit, oui, c'est fluide.
T'as pas confiance en mes infos?
Non, t'as dit que tout à l'heure tu faisais des saucisses une fois sur deux, donc on se méfie quand même, David. Blague à part, la Youth League, désormais, c'est important, c'est du folklore, ça vous parle, c'est un match de barrage face à Séville que vont jouer les Nantais mercredi à 19h à la Beaujoire. Plus de 10 000 personnes attendues, 11 000 sans doute. C'est assez incroyable cet engouement derrière la jeunesse nantaise.
Avec des places payantes par rapport au tour précédent.
Exactement. Donc les gens ont payé.
Gratuit pour les abonnés.
C'est quand même un sacré chiffre.
Il y a 14 500 abonnés.
Bien sûr. mais qui s'intéresse aussi aux jeunes. C'est voilà, tradition nantaise qui se respecte. Quelle équipe mercredi et quel enjeu pour ce match? Il n'y aura pas Zézé, il n'y aura pas Meupillou. Les plus connus ne seront pas là.
Et Timothée, David?
Oui, absent aussi.
C'est trois absents, pour moi il y a surtout deux absents de marque. Alors Bastien Meupillou, c'est le moment de donner des nouvelles, mais c'est vrai qu'il s'est fait opérer du ménisque et je pense que a priori le ménisque c'est lent, c'est compliqué et il pourrait, si tout se passe bien, faire son retour début avril. C'est pour ça que quand j'ai entendu qu'il pouvait être une solution de doublure à Jean-Kevin Duverne, je sais pas qui a pu l'imaginer, mais
sur la fin de saison, ça te paraît impossible?
Bah, à partir du moment où le joueur il est
revenu,
il va reprendre opérationnel début avril, il sera peut-être opérationnel mi-avril, on est à un mois de la fin du championnat.
Ouais,
enfin, okay. Je pense que d'ici là, on saura un peu plus sur l'état de forme du FC Nantes.
Ouais.
Voilà, les deux vraies absences sont effectivement préjudiciables, puisque je trouve que ce soit Nathan Zézé en défense centrale et que ça soit Timothée David au milieu, c'était deux éléments stabilisateurs, à la fois dans la maîtrise des émotions, dans le tempo, dans le jeu.
Mmh. Ils emmenaient l'équipe, quoi.
Oui, puis ils rassuraient, en tous les cas, lorsqu'il y avait des moments creux. Enfin, on les sentait, en tous les cas, au-dessus. J'avais beaucoup aimé le match de Timothée David sur le match aller contre Helsinki. Et effectivement, ce sont deux absences préjudiciables, même si Nathan Zézé, elle peut s'expliquer à la fois par un petit coup qu'il a reçu à la cheville et contre Lens. Il ne reprendra, je crois, même l'entraînement que jeudi.
Est-ce que vous avez des infos sur l'adversaire? Est-ce que c'est un gros morceau pour Nantes? Est-ce qu'on peut imaginer nos Canaries en huitième de finale de Youth League, la Ligue des champions des jeunes? C'est quand même sympa d'imaginer ça.
C'est un adversaire... c'est pas un club qui a une vraie tradition de formation. Même s'il y a eu Jesus Navas, il y a eu Ramos, mais on va dire qu'ils sont presque des accidents en tous les cas dans l'histoire du FC Séville. C'est le vrai club formateur, c'est plutôt le Bétis qui met des moyens énormes. C'est une équipe en tous les cas dont on nous dit qu'il faudra se préparer à un vrai combat. D'ailleurs, c'est une équipe qui a pris le plus de cartons, je crois, de la compétition.
Ah ouais.
C'est une équipe assez athlétique, rugueuse, qui joue beaucoup à l'énergie, avec beaucoup de vis. Donc les Nantais, en tous les cas, sont prévenus sur ce point-là.
Bah non, mais forcément, c'est super. C'est la Ligue des champions des jeunes. Comme tu l'as dit, c'est la tradition nantaise. Le FC Séville, ça parle quand même aussi... ça parle aussi au plus grand nombre par rapport à Lech Poznan ou Helsinki, qui étaient des
situations... Lech Poznan.
Oui.
Oui, d'ailleurs, c'est Jesus Navas.
Oui, t'as dit Jesus ou je sais pas quoi, là.
Voilà, merci. Super, les gars.
Non, mais attention,
non, mais voilà, le FC Séville.
Pierre Arnaud Bar.
Oui. Forcément, le FC Séville, ça parle plus. C'est à la Beaujoire, il va y avoir du monde. Et au tour précédent, j'avais discuté avec Stéphane Moreau, l'entraîneur des U19 de ce match-là. Il disait que pour eux, la Youth League, c'est un moyen, enfin ça vaut plusieurs matchs de championnat, parce ouais. que t'es dans un autre contexte, parce que t'es à la Beaujoire, parce que...
10 000 personnes.
10 000 personnes, voilà, tu dois appréhender le public, même s'il y en a quelques-uns qui... Voilà, qui faisaient ou machin, mais qui ont connu la Ligue 1. Mais c'est aussi un autre contexte. T'es un adversaire différent de ce que t'es en championnat, un autre foot, alors rugueux, comme dit Jean-Marcel. Enfin, moi, je trouve ça super.
Ouais. C'est plus que beaucoup de stades de Ligue 2, hein.
Ah bah bien sûr,
c'est ça qui est fou.
Ouais, mais c'est pour ça que je parlais de cet engouement.
C'est presque plus que Angesco, par exemple.
Ça nous paraît normal, mais
après je trouve qu'il y avait eu un vrai débat en début de saison et il avait d'ailleurs été exposé sur les réseaux sociaux où certains, en tous les cas, on va dire des suiveurs de ces équipes-là, enfin des équipes de jeunes, trouvaient que le FC Nantes alignait la meilleure équipe et oui. prenait pas de risques et pas assez de surclassement. Par exemple, il n'y avait pas assez de joueurs surclassés.
Pour avoir des bons résultats, mettez les meilleurs. Et,
voilà, ouais. et pas forcément ceux l'apprentissage. Alors il y avait un vrai débat parce
c'est
que
vrai.
Ceux qui ont joué aussi, ce sont ceux qui ont gagné le titre de champion de France et qui valident en tous les cas.
Et qui ont envie de jouer.
Et qui ont envie de jouer. Au-delà de ce débat-là, je trouve en tous les cas, l'histoire fait que, je pense, si on prend l'exemple de Nathan Zézé, je pense que c'est la compétition qui lui a permis de tenir et de patienter à cette période-là. Puisqu'il en était le capitaine.
Qu'il a vécu.
Il avait quelque chose qui sortait un peu du quotidien et de l'ordinaire, qui lui a permis en tous les cas de tenir et d'être prêt comme il l'est aujourd'hui. Et il se trouve que par par le jeu aussi des blessures, des suspensions. C'est une équipe quand même qui est quand même une ossature avec 11 2006 et 3 2007 qui font leur apparition dans l'équipe qui s'est en tout cas rajeunie. On n'aura pas tout à fait la même équipe contre Séville qu'on a eu contre Helsinki.
Et puis c'est une équipe qui s'est battue pour arriver à ce barrage. Ils ont fait deux fois, ils s'en sont sortis au tir au but.
Ouais, c'est vrai que on s'était dit un gros après Helsinki, ce serait chouette. Et c'est donc le FC Séville. Victoire la plus importante de la semaine, Séville ou Toulouse?
C'est sans commune mesure, c'est sans commune mesure.
Oui, évidemment, c'est la locomotive du club.
Et imprime tout le reste. Donc évidemment, c'est Toulouse, le match charnière.
Toulouse, quand même.
Je l'ai dit, charnière, c'est ça.
Toulouse, mais t'en as fait quelque chose aussi, David, sur le site de West France. C'est quand même un adversaire qui est particulier. Hein. Mmh. Ça a précipité la chute, rien que la saison dernière, ça a précipité la chute en finale de Coupe de France de Antoine Comboiré. Et c'était la première de Pierre Aristouille. J'y étais, qui était très, très particulière.
Hein. C'est d'ailleurs quand c'est de Mohamed, le stade
battu
évacué, en barrage.
Mais allez voir ma vidéo.
Ah oui, le barrage.
La pub. Ah ouais, allez voir la vidéo sur le site de West France.
Ouais, et en plus, on ne voit pas David, donc c'est très bien.
Vraiment, ah oui, vraiment, bah, je vais aller voir du coup. ça m'intéresse. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, messieurs, pour débriefer tout ça. Salut.
Salut.
Sans contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de West France, Presse Océan et It West.